Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler d'architecture d'ordinateur, mais aussi de systèmes biologiques. Vous allez voir comment la biologie peut influencer le calcul des ordinateurs. Pour en parler, nous recevons Hugues Berry, chercheur de l'équipe Alchemy à l'INRIA Saclay, Île-de-France. Hugues Berry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biochimiste de formation et vous travaillez sur la modélisation des cellules et son application à l'architecture des ordinateurs. Rien ne vous prédestinait à travailler dans le domaine de l'informatique. Comment avez-vous atterri dans le projet Alchemy, si je puis me permettre ?
Alors, en effet, c'est assez étonnant. Disons que, initialement, mon travail a quand même été de faire de la modélisation et de la simulation de systèmes biologiques, donc avec une grande part d'informatique, c'est-à-dire d'utiliser l'informatique comme outil pour comprendre le vivant. Puis, il y a quelques années, j'ai rencontré Olivier Temam, qui est un architecte dans l'équipe Alchemy, qui est architecte des ordinateurs, et qui voulait, lui, au contraire, s'inspirer ou utiliser de la biologie pour essayer de comprendre comment faire de nouvelles tâches de calcul. C'est-à-dire faire le contraire, utiliser la biologie au service de l'informatique. Et ce renversement de perspective est vraiment la chose qui m'a séduite, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'équipe.
L'architecture des ordinateurs, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est ?
Ah oui, alors l'architecture des ordinateurs, c'est tout ce qu'il est nécessaire de faire en termes d'ingénierie pour faire en sorte que les circuits que vous utilisez dans vos ordinateurs soient plus rapides et travaillent mieux et soient plus efficaces que les générations précédentes.
En gros, vous vous inspirez des systèmes biologiques pour imaginer de nouvelles façons de calculer, de nouvelles façons de résoudre des problèmes que les ordinateurs ne peuvent pas résoudre.
Exactement.
Alors, en quoi ces deux systèmes peuvent-ils être similaires ?
Pour comprendre ça, il faut en fait considérer l'évolution jusqu'à présent des architectures d'ordinateurs, c'est-à-dire des ordinateurs tels qu'on les a chez nous, à la maison. Et ce qu'on voit maintenant, du coup, c'est des ordinateurs qui ont plusieurs cœurs de calcul. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul cœur de calcul dont la fréquence est de plus en plus grande, on a plusieurs cœurs de calcul qui travaillent en parallèle. Et pour essayer d'augmenter le calcul, le but du jeu, c'est de couper ce calcul en petites parties, les faire exécuter en parallèle sur ces petits cœurs élémentaires, et comme ça, on espère que ça va plus vite. Bon, mais si on poursuit cette tendance dans 5 ans, dans 100 ans, ce qu'on imagine, c'est avoir, au lieu des 8 cœurs ou 16 cœurs qu'on peut avoir actuellement, des choses avec 100, 200, 1000 cœurs. Alors, si on regarde bien ces systèmes, on voit des choses qui sont individuellement pas très rapides, qui tirent en fait leur puissance du fait qu'ils sont très nombreux. On a des systèmes qui ne devront pas du tout être supervisés, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir un nœud organisateur qui dira à chaque petit nœud de calcul vous allez faire ça. Chacun devra être autonome et s'auto-organiser pour faire le calcul. Chacun aura de plus en plus de transistors ou de composants par ordinateur. Chacun aura sûrement des erreurs, des pannes et des fautes de fabrication déjà initialement et sûrement pendant sa durée de vie. Mais malgré ça, il faudra que le système continue à fonctionner. Et bien, si on regarde ça, dans ces considérations, on a exactement ce que fait un système de cellules biologiques, par exemple des neurones ou des bactéries. En effet, chaque cellule biologique fait un calcul. Ça peut être un calcul très élémentaire, mais elle fait un calcul. Et tout ce que fait le vivant est rendu possible par le fait qu'on a énormément de ces petits calculateurs qui font les calculs. Le calcul qui est fait par chaque cellule est généralement assez lent en comparaison des microprocesseurs actuels. Et puis, tout ça est vraiment très robuste aux pannes. Voilà, donc l'idée qui est derrière, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons de la façon dont les systèmes biologiques fonctionnent pour essayer de comprendre comment utiliser ces systèmes dans 10 ou 100 ans et comment, si on ne peut pas utiliser ça, pour faire des calculs que les ordinateurs actuels ne savent pas encore faire.
Et comment la modélisation de cellules, par exemple, ou de bactéries, va permettre de résoudre des problèmes que l'ordinateur ne peut pas résoudre ?
Oui, alors, dans les cellules, tout est question de réseaux ou de circuits de ces molécules qui interagissent entre elles. Et pour comprendre une partie de la vie de la cellule, il faut comprendre comment travaille un vaste nombre de molécules qui sont interconnectées, qui se discutent entre elles, un peu comme un réseau de téléphone portable, si vous voulez. Et pour comprendre ça, c'est très difficile juste en imaginant ce qui peut se passer. Donc pour comprendre ces systèmes de vivants, il nous faut de la modélisation. D'autant plus que si maintenant on veut essayer de les programmer, ces cellules, eh bien, il va falloir rajouter des choses pour essayer de faire en sorte de diriger le comportement de la cellule vers le comportement qu'on veut qu'elle ait. Et ça, eh bien, ça rajoute encore une couche de complexité. Et pour ça, ça nécessite de toute façon de la simulation et de la modélisation pour comprendre comment ça fonctionne.
Mais quand on parle de cellules et de bactéries, on n'est pas sur la même échelle.
Bien sûr, ce dont je suis en train de vous parler, ce sont des choses à long terme. On est très très loin d'arriver à le faire. Un des problèmes principaux, c'est l'aspect multi-échelle des systèmes vivants. C'est-à-dire que pour arriver à les programmer, ces systèmes vivants, pour arriver à comprendre comment ils fonctionnent et comment on peut les modifier, bien, il faut comprendre toutes les échelles de l'organisation. Je m'explique. C'est que l'échelle la première, qui est la seule échelle sur laquelle pour l'instant on peut jouer, c'est l'échelle des molécules à l'intérieur d'une cellule. Donc c'est les réseaux de régulation, les circuits de régulation, les circuits d'interaction entre les molécules. Mais une cellule tout seule, ça ne fait rien. C'est des communautés, des ensembles de cellules. Donc on a une deuxième échelle qui est au niveau de l'ensemble de la communauté, des populations de cellules. Et puis, généralement, il n'y a pas qu'un seul type de cellule, il y a plusieurs types de cellules, par exemple. Donc on a un troisième niveau de complexité qui sont les interactions entre populations différentes de cellules. Donc vous voyez qu'on a tout le temps différentes échelles, et il faut qu'on soit capable de les prendre en compte tous pour arriver à programmer ces bactéries et leur faire faire ce qu'on veut. Et ce problème de simulation, de modélisation multi-échelle, c'est un problème qui est très important actuellement et qu'on n'arrive pas encore très très bien à résoudre.
Et quel est l'intérêt de s'inspirer des systèmes biologiques?
Alors, bon, d'abord une précision, très clairement, il ne s'agit pas d'utiliser ces systèmes un peu biologiques inspirés ou ces bactéries pour faire les ordinateurs, le PC que vous avez sur votre bureau, c'est-à-dire faire des outils de travail généralistes, c'est-à-dire des choses qui peuvent tout exécuter en fonction d'un code qui est le code du logiciel que vous utilisez. Donc, très certainement, nous sommes en train de parler là de dispositifs spécialisés pour des tâches bien précises. Et on en est arrivé là parce que depuis 5-6 ans, 10 ans, les progrès de la biologie nous permettent de l'envisager. C'est-à-dire que maintenant, en tout cas pour les bactéries, un peu moins pour les autres cellules, mais pour les bactéries, on sait vraiment faire un peu tout ce qu'on veut comme transformation de l'ADN et du génie génétique, de la partie génétique de ces bactéries. Sauf que, actuellement, les généticiens qui font ça, ils le font de façon un petit peu artisanale. C'est-à-dire leur méthode, c'est un petit peu de recette de cuisine, si vous voulez.
Quelque part, on est arrivé aux limitations des outils des généticiens et en fait, on a dû se tourner vers de nouveaux outils.
Alors, ce qu'on voudrait, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer à un stade un petit peu ingénierie ou industriel en standardisant les processus avec des fiches, avec des procédés, de telle sorte que même quelqu'un qui n'est pas très spécialiste en génétique arrive en disant « je veux tel comportement, pouf, colle les morceaux ensemble, donc il faut avoir pour ça des éléments un peu standardisés, et arrive à faire le même travail que fait un généticien en étant vraiment un homme qui a un état de l'art très très... une compétence très, très pointue. Et c'est ce qu'on appelle actuellement la biologie de synthèse ou la biologie synthétique. Et c'est ce qui nous permet de penser que si ça commence à fonctionner clairement, il n'y a qu'un pas entre prendre ces systèmes-là et vraiment programmer les bactéries en utilisant ces outils.
Et quelles applications peut-on faire de vos travaux?
D'une façon générale, il y a encore beaucoup de choses que le vivant sait faire, que les ordinateurs actuels ne savent pas faire du tout. L'exemple qu'on peut prendre principalement, c'est par exemple la reconnaissance des formes ou des objets. Notre cerveau, donc les cellules de notre cerveau, sont capables très très rapidement et presque sans effort de reconnaître, par exemple, de savoir si dans votre champ de vision, est-ce qu'il y a un visage ou pas. Ça se fait à moins de 100 millisecondes. Et ça, quel que soit l'angle de vue de ce visage, quelle que soit la distance de votre œil par rapport au visage, quelles que soient les conditions d'éclairage du visage. Donc voilà une tâche que pour l'instant, on ne sait pas faire correctement avec un ordinateur. D'autre part, ce qu'on aimerait faire, c'est beaucoup de tâches qui consistent à faire des petits calculs localement à des fins de diagnostic. Alors typiquement, par exemple, ce qu'on aimerait, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'une cellule est cancéreuse à l'intérieur du corps? Eh bien, on pourrait programmer des bactéries pour qu'une fois qu'elles sont dans le corps, injectées dans un corps humain, elles soient capables, si vous voulez, de faire le tour des cellules qu'elles rencontrent, et en fonction de ce qu'elles détectent à la surface de cette cellule, elles fassent un calcul. Donc l'entrée du calcul serait les motifs de protéines qu'elles rencontrent à la surface de la cellule, et la sortie, ce serait oui ou non, cette cellule est cancéreuse, par exemple. Et si la réponse est oui, enclencher sur une deuxième partie de son programme, qui est je vais faire en sorte d'injecter tel et tel produit chimique pour tuer cette cellule cancéreuse. Actuellement, ces types de choses-là, on ne sait pas les faire avec des molécules, parce qu'une molécule, par exemple un antibiotique, si vous voulez, pour les bactéries ou un anticancéreux, une protéine, c'est pas intelligent, ça ne sait pas faire beaucoup de calculs, alors qu'on espère pouvoir le faire avec une bactérie, parce que la puissance de calcul d'une bactérie est déjà bien plus importante.
Eh bien, merci Hugues Berry d'avoir répondu à nos questions. Ce podcast est maintenant terminé. Chers auditeurs, à la prochaine, et n'oubliez pas, l'informatique à portée de clic sur Interstice.